Bien, j'ai rappelé ici les titres des prochains séminaires, des derniers séminaires donc, de cette année scolaire. Tout à l'heure, à 11h, nous aurons un séminaire de Philip Stamp, de l'Université de British Columbia, qui va nous parler de Decoherence and the Spin Bath. La semaine prochaine, ce sera Sandro Stringari, de l'Université de Trento, en Italie, qui nous parlera de Dynamics of Trapped Both Gases, Quantum versus Interaction Effect, qui est tout à fait en liaison avec le cours de cette année. Puis, le 8 décembre 1998, ce sera le professeur Tenis de Bonn qui va nous parler de Helium-4 clusters, how many atoms are needed to make them superfluid. Là encore, un problème en liaison avec la condensation de Bose-Einstein. Et enfin, le dernier mardi, donc le 15 décembre, ce sera Franck Laloé du laboratoire Cattier-Bruxelles qui nous parlera là encore de condensation de Bose-Einstein avec un titre « Au-delà de la théorie du champ moyen, un mécanisme pour la superfluidité dans les gaz ». Voici donc les prochains séminaires et comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, aujourd'hui nous abordons un nouveau chapitre qui est la méthode de Bogoliubov. Alors, je voudrais tout d'abord faire une introduction rapide et vous expliquer en quoi cette méthode est intéressante et pourquoi ça vaut la peine d'en discuter. Dans les cours précédents, dans les deux derniers cours précédents, j'ai parlé de la méthode variationnelle, essentiellement. Nous avons essayé de diagonaliser, enfin, plus ou moins, de trouver l'état fondamental de l'hamiltonien de n bosons dans un piège ou dans une boîte en recherchant à minimiser la valeur moyenne de l'hamiltonien du système dans un état produit. Il y a donc deux approximations dans cette histoire. On utilise une méthode variationnelle. On ne sait pas diagonaliser exactement H. On utilise donc une méthode variationnelle. Et comme vous le savez, la méthode variationnelle marche surtout pour l'état fondamental. Donc, c'est une méthode très bien adaptée pour étudier le condensat dans lequel se trouvent toutes les particules à la température T égale 0. Nous n'avons pas d'informations sur les premiers états excités du système. Alors, bien sûr, on pourrait re-essayer de minimiser H dans le sous-espace orthogonal à l'état fondamental, et puis ainsi de suite. Deuxièmement, nous avons recherché le minimum de la valeur moyenne de H dans un sous-espace de l'espace de Hilbert, qui est le sous-espace produit, où toutes les particules sont dans le même état phi, phi de 1, phi de 2, phi de n. Et en procédant de la sorte, nous avons négligé les corrélations de particules. Si nous prenons un état produit pour toutes les particules, elles sont toutes sans corrélation. La probabilité de trouver une particule en un point et une autre particule dans un autre point est tout simplement le produit des deux probabilités. Il n'y a pas de corrélation entre les positions des particules. Et en procédant ainsi, nous avons montré que le meilleur phi, quand on prend donc un état produit, que le meilleur phi était un phi qu'on peut appeler self-consistant, autocohérent. C'est le phi tel que l'évolution de chaque particule dans le champ moyen des autres, toutes dans l'état phi, la solution de l'équation correspondante redonne phi. Nous avons donc obtenu ce qu'on appelle une théorie de champ moyen, du même type que la théorie de Hartree-Fock en physique atomique. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi souvent cette théorie la théorie de Hartree-Fock. Donc c'est une théorie de champ moyen, ou Hartree-Fock. Alors, la méthode de Bogoliubov est une méthode qui essaie d'aller plus loin. Et on essaye, dans cette méthode, non plus d'utiliser une approche variationnelle, mais on essaye de diagonaliser l'hamiltonien. Bien sûr, en remplaçant l'hamiltonien exact par un hamiltonien approché ou effectif dans un sous-espace d'état, qui sont les états importants. Donc, vous voyez, on fait un autre type d'approximation. On se limite à un sous-espace dans l'espace de Hilbert, qui est le sous-espace des états cycles importants lorsqu'on est proche du zéro absolu, et on essaie de diagonaliser l'hamiltonien effectif correspondant dans ce sous-espace. À ce moment-là, si on fait cela, on va avoir non seulement l'état fondamental, mais on va avoir les premiers états excités. Et les premiers états excités d'un système de particules en interaction, c'est ce qu'on peut appeler des excitations élémentaires. Ou encore des quasi-particules. Donc, l'avantage de la méthode de Brillouin, c'est qu'elle va nous renseigner sur les premières excitations du système. Et nous allons voir que ces premières excitations peuvent être décrites en termes de phonons, en termes d'ondes sonores, qui se propagent avec une certaine vitesse qu'on va pouvoir calculer. Puis, comme ce n'est pas une méthode qui repose sur des états produits, on va trouver une nouvelle expression pour l'état fondamental qui est plus précise que celle donnée par la méthode variationnelle. Et donc, on va pouvoir étudier un certain nombre de caractéristiques dans l'état fondamental qui n'étaient pas descriptibles dans la précédente méthode. On va en particulier pouvoir étudier les corrélations dans l'état fondamental. Donc c'est une méthode intéressante et il m'a semblé utile de l'exposer avec assez de détails parce qu'en général, la plupart des calculs sont escamotés dans la littérature et il y a des calculs un peu délicats. Enfin, dernière remarque, la méthode de Bogo-Dubov permet d'obtenir des résultats analytiques lorsque le système de bosons est dans une boîte. C'est-à-dire lorsque, au milieu de la boîte, le système est homogène. Alors que dans un piège, vous savez bien que le condensat a une forme donnée. Donc, la méthode de Bogo-Dubov est plus puissante quand on étudie des bosons dans une boîte. C'est-à-dire qu'on étudie un système qu'on appelle homogène ou uniforme. Homogène parce que dans l'état fondamental de la boîte, si on accepte ce qui se passe au voisinage immédiat de la boîte dans une longueur qui est la longueur de relaxation que j'ai introduite précédemment, mais si la boîte est très grande, on peut négliger cette partie qui est toute petite par rapport au volume de la boîte, à ce moment-là, le système a une densité constante partout, il est uniforme ou homogène, et à ce moment-là, on peut obtenir des résultats analytiques. La méthode de Bogo-Dubov est néanmoins transposable au cas de particules dans un piège, mais là, les résultats ne sont pas analytiques. Donc, il m'a semblé intéressant aujourd'hui de vous présenter aujourd'hui et la prochaine fois la méthode de Bogo-Dubov dans une boîte et d'obtenir des résultats analytiques parce qu'ils nous permettront de savoir quel est l'infiniment petit du problème, quel est le paramètre de développement, bien que ce ne soit pas un calcul perturbatif, quel est le paramètre qui caractérise le fait que le milieu est dilué. Voilà donc un peu la motivation. Enfin, dernier point, je vais faire le calcul pour, en général, un potentiel d'interaction à deux corps entre deux particules qui dépendent que de leur distance R et J. Il m'arrivera de prendre un potentiel V delta, qui est G delta de R, si la portée du potentiel ou la longueur de diffusion est extrêmement petite devant la distance moyenne entre particules, on peut négliger la portée, mais vous savez que ce potentiel marche bien au premier ordre, mais qu'au-delà il y a des problèmes, et que, en fait, le vrai potentiel qu'il faut prendre, qui a la même longueur de diffusion que le vrai potentiel, et qui donne les mêmes résultats, à part que la portée effective est négligée, c'est le potentiel pseudo-potentiel, V pseudo, qui est la G, delta de R, D sur DR de R. J'ai longuement insisté sur ces problèmes dans un cours précédent, le cours 4, et je vous ai montré que la plupart des expressions sont les mêmes, obtenues avec V delta et V pseudo. Il faut faire attention quand il y a des problèmes de convergence uniforme. Quand il y a des problèmes de convergence uniforme, il faut faire agir, il faut sommer sur les termes qui apparaissent ici avant de faire agir D sur DR de R, parce que sinon on obtient des résultats inexacts. Donc la philosophie que je vais faire, aujourd'hui je vais faire un calcul sérieux, par exemple du déplacement de l'état fondamental au deuxième ordre en V, par les deux potentiels, et montrer que les résultats sont différents. Mais après, je ferai toujours les calculs avec V delta en utilisant les résultats que j'aurai établis aujourd'hui, chaque fois qu'on a une infinité, pour dire, attention, cette infinité et factice. Si j'avais utilisé les pseudos, j'aurais obtenu un résultat fini. D'accord ? Sinon, le calcul, on pourrait faire le calcul entièrement avec des pseudos, mais vous allez voir, déjà, il y a pas mal de calculs et ça serait extrêmement lourd. Donc, j'ai préféré prendre l'attitude de faire le calcul sérieusement dans le cadre de l'état fondamental déplacé au deuxième ordre et ensuite d'admettre les résultats. Bien, alors, le premier problème, bien sûr, maintenant qu'on veut diagonaliser H, c'est d'obtenir une expression de H et ensuite d'être capable de faire des approximations sur cette expression de H. Donc le deuxième paragraphe, ça va être d'établir expression de H. Et toutes les fois qu'on a affaire à un grand nombre de particules identiques et qu'on a utilisé le postulat de symétrisation, c'est-à-dire au lieu d'utiliser des fonctions donc complètement symétriques ou complètement antisymétriques et d'avoir des particules numérotées et de voir les numéros disparaître à la fin des calculs, parce que évidemment les numéros ne sont pas physiques, à la fin des calculs on a des nombres, et quand on n'a pas de numéros, il est beaucoup plus simple de faire les calculs en seconde quantification, qui est un formalisme extrêmement puissant et commode pour inclure dès le début le postulat de symétrisation. Donc je vais très rapidement passer sur ce point-là. Dans les notes, vous avez toutes les formules importantes. Je ne peux pas, bien sûr, refaire un cours entier sur la seconde quantification, mais je vais vous donner un peu les idées générales. Alors, la Hamiltonienne du système, bien sûr, H, c'est la somme de I égale 1, dans le formalisme habituel, de I égale 1 à N de PI carré sur 2N. Ça, c'est les énergies cinétiques de chaque particule sommée sur toutes les particules, plus 1 demi de sigma I, sigma différent de J, J différent de I, de V, de RI moins RJ en module, puisque ça dépend de la distance. Pourquoi un demi ici? C'est par exemple, il ne faut pas compter deux fois la même paire, par exemple la paire 1, 2 est comptée pour I égale 1, J égale 2, et I égale 2, J égale 1. Donc il faut diviser par 2 pour ne pas compter deux fois la même paire. Alors normalement, si on prenait le formalisme habituel, il faudrait utiliser toujours des fonctions d'onde complètement symétriques et calculer les éléments de matrice de cet Hamiltonien entre ces fonctions d'onde. Dans le formalisme de la seconde quantification, on prend un point de vue plus physique, on prend une base d'état à une particule, des états individuels, et on se dit que ça c'est pour une particule. La seule chose qui compte quand on a des particules identiques, une base d'état de ces particules identiques est déterminée entièrement si on connaît combien il y a de particules dans chaque état. Donc on définit donc un état de base du système total par les nombres d'occupations n alpha. Et par exemple, un état de base, ça va être un état où il y a n alpha particules dans l'état phi alpha, n bêta particules dans l'état phi bêta, et ainsi de suite. Et il y a des opérateurs élémentaires à partir desquels on peut exprimer tous les autres, qui sont les opérateurs analogues à ceux de l'oscillateur harmonique, qui sont les opérateurs de création et de destruction d'une particule dans un certain état. Par exemple, l'opérateur de destruction à alpha, agissant sur un état où il y a n alpha particules dans l'état phi alpha, me donne un état où il y en a une de moins, toutes les autres étant échangées, avec un coefficient ici qui est racine de n alpha. Si je prends un état où il n'y a pas de particules dans l'état alpha, à ce moment-là, on obtient 0. Ceci est exactement la généralisation, donc un système de particules identiques des relations de A et A croix pour l'oscillateur harmonique. Quant à l'opérateur de création, qui est l'opérateur adjoint de cet opérateur, c'est tout simplement, il fait passer de n alpha à n alpha plus 1, avec ici un coefficient qui est racine de n alpha plus 1. Et ce qui est intéressant, c'est que les conséquences du postulat de symétrisation sont entièrement reportées sur les relations de commutation des alpha, des A alpha et des A bêta, et ces relations de commutation pour des bosons, c'est tout simplement que A alpha A bêta croix est égal à delta alpha bêta, 0 si alpha différent bêta, 1 si alpha égale bêta, tous les autres commutateurs étant nuls. Et à ce moment-là, tous les états de base du système peuvent être obtenus à partir du vide, c'est-à-dire l'état où il n'y a aucune particule, en créant suffisamment de particules dans l'état alpha, suffisamment de particules dans l'état bêta, et ainsi de suite. Donc tous les états peuvent être exprimés à partir de l'action sur le vide de n opérateurs de création, s'il y a n particules, et tous les opérateurs peuvent être exprimés comme des sommes de produits de A et A croix. Et on a implicitement, dans le formalisme, le postulat de symétrisation. Alors, pour illustrer ceci, je vais maintenant passer en revue les deux termes de l'Hamiltonien ici. Celui-là ici, qui est une somme d'Hamiltonien élémentaire, une somme d'opérateurs où une seule particule est impliquée à la fois, qu'on appelle un opérateur à une particule, et celui-ci qui est une somme d'opérateurs où deux particules sont impliquées à la fois, qu'on appelle des opérateurs à deux particules. Alors, pour les opérateurs à une particule, on a évidemment f égale sigma i de 1 à n de f de i, et en seconde quantification, on peut montrer, je ne le ferai pas ici, ça c'est, disons, vous pouvez vous reporter dans des droits d'enseignement, f en seconde quantification peut s'écrire sous la forme de sigma alpha sigma bêta de A alpha A bêta croix. On détruit une particule dans l'état alpha, on en crée une dans l'état bêta, avec multiplié par un nombre complexe et l'élément de matrice de F entre alpha et bêta. Autrement dit, on fait passer une particule de l'état alpha à l'état bêta, on la détruit dans l'état alpha, on la fait passer dans l'état bêta, avec une amplitude qui est l'élément de matrice de F. Alors, comparer ces deux expressions, elles ont les mêmes éléments de matrice, entre fonctions d'onde complètement symétriques, donc elles sont équivalentes formellement. Ici, on a une somme sur n termes. Ici, on a une double somme infinie, parce qu'en général, il y a un nombre infini d'états. Quand on prend une base d'états individuelle, il y a un nombre infini d'états. Ça paraît beaucoup plus compliqué. Il y en a une double infinité, on a une infinité ici. Mais vous voyez ici, on a uniquement les opérateurs A et A croix. Et en utilisant les relations de commutation, on peut jouer avec, on peut les transformer très simplement. Et en plus, dans cette somme ici, on a des numéros, 1, 2, n, dont on sait qu'ils vont disparaître à la fin des calculs, puisqu'à la fin des calculs, il ne doit pas avoir de numéro, alors qu'ici, dès le début, il n'y a pas de numéro. C'est une expression beaucoup plus physique. Exemple concret, l'opérateur énergie cinétique, F cinétique égale sigma i carré de 1 à n de pi carré sur 2m. Prenons une base adaptée à l'opérateur P2 sur 2m. Une base adaptée à l'opérateur P2 sur 2m, c'est une base d'onde plane. Comme j'étudie aujourd'hui des bosons dans une boîte, je prends une boîte de côté L avec des conditions limites périodiques. Donc, les fonctions d'onde qui décrivent ces états K, c'est projection sur R de K, 1 sur L, 3 demi et puissance IKR, où les composantes de K sur X, Y, Z sont 2 pi sur L fois un entier, N, X, Y, Z. Alors, dans cette base, l'opérateur P2 sur 2M est bien sûr diagonal. On a K' P2 sur 2M, K égale h bar 2 k2 sur 2m delta kk prime. Quand je reporte cette expression là-dedans, en plaçant alpha par k et bêta par k prime, le delta kk prime qui est ici me fait disparaître une des deux sommations, et j'obtiens h cinétique égale sigma sur k seulement, h bar 2 k2 sur 2m, ak croix, ak. Et cet opérateur-là, ak croix ak, c'est l'équivalent de l'opérateur A croix A de l'oscillateur harmonique, qui est le nombre d'excitations, c'est le nombre de particules dans l'état K. Et j'obtiens pour l'hamiltonien d'énergie cinétique une expression très simple, c'est le nombre de particules dans l'état K que multiplie l'énergie cinétique correspondante, H bar de K2 sur 2M, sommée sur toutes les K possibles. Donc vous voyez, ça donne pour l'hamiltonien une forme extrêmement simple. Alors, passons maintenant au deuxième type d'opérateur qui apparaît ici, V de RI moins RJ, ça c'est un opérateur à deux particules, dont la structure générale est G égale 1 demi de sigma sur I, sigma sur J, différent de I de GIJ, avec GIJ égale GJI. Ça c'est dans le formalisme habituel. En seconde quantification, ça devient 1 demi, G égale 1 demi, comme maintenant j'ai deux particules qui passent de deux états initiaux à deux états finaux, On a quatre indices de sommation, sigma sur alpha, sigma sur bêta, gamma delta, de A alpha à bêta, A gamma croix à delta, croix, que multiplie un élément de matrice alpha bêta G gamma delta. Donc je détruis une particule dans l'état alpha, je détruis une particule dans l'état bêta, et je les crée dans l'état gamma et dans l'état delta, avec une amplitude qui est cet élément de matrice, et cet élément de matrice, je l'ai représenté symboliquement ici, diagrammatiquement ici. On a dans le ket alpha bêta une interaction, et la particule qui était dans alpha passe dans delta, la particule qui était dans bêta passe dans gamma. Donc, je fais disparaître deux particules dans ces états, et je les crée dans ces états-là, avec une amplitude qui est donnée par cet élément de matrice, sommée sur toutes les valeurs possibles d'alpha, bêta, gamma, delta, avec le facteur 1/2. Exemple, admettons une interaction, qui est ici. À ce moment-là, évidemment, la première base à laquelle on peut penser qui est la plus simple, c'est la base dans laquelle V est diagonale, c'est la base des vecteurs propres de l'opérateur position, la base R. Et l'équivalent des opérateurs A alpha, A bêta, A gamma, c'est l'opérateur que je pourrais l'appeler A indice R, A croix indice R. Alors au lieu de l'appeler A indice R et A croix indice R, on les appelle psi de R, parce que R est une variable continue, et psi croix de R. Alors pour bien montrer que ce n'est pas des fonctionnements mais des opérateurs, j'ai ajouté un chapeau. C'était l'opérateur création d'une particule en R et l'opérateur destruction d'une particule en R. Voilà donc ce qu'il faut que je mette ici, à la place de alpha, à bêta, gamma, delta, j'aurai 2 psi et 2 psi croix. Et quant à l'élément de matrice de V, V1, 2, entre 1R, 2R prime, 1R tierce, 2R seconde, comme V est diagonale en R, il ne change, l'opérateur 1 ne change pas R, on a donc delta de R moins R seconde, R tierce, pour 2, ça ne change pas, donc R prime égale R seconde, et l'élément de matrice est V de R moins R'. Donc l'élément de matrice de V est donné par cette expression. Quand je repense à là-dedans, les deux fonctions delta font disparaître deux sommations, et il ne me reste plus qu'une sommation sur R, une sommation sur R' qui sont en fait des intégrales, puisque R et R' sont des variables continues. Donc j'ai 1/2 somme de D3R', V de RR moins R', en sandwich entre, enfin en sandwich c'est un nombre ça, donc je peux le mettre n'importe où, mais entre psi de R prime psi de R et psi croix de R psi croix de R prime. Voilà l'opérateur d'interaction. Alors, comme je suis quand même dans une boîte et que je sais que l'état fondamental, quand je ne tiens pas compte des interactions, c'est toutes les particules dans l'état fondamental de la boîte, c'est-à-dire l'état K égale 0, j'ai quand même intérêt à utiliser la base K. Et il est intéressant aussi de connaître l'expression de H interaction dans la base K. Alors voilà, H interaction dans la base R. Passons dans la base K. Alors l'opérateur psi de R, c'est une superposition linéaire des opérateurs A de K avec des coefficients 1 sur L puissance 3/2 puissance IKR. Je prends le même développement que dans la théorie en première quantification, où psi de R peut être développé en nombre plein, simplement qu'on passe en seconde quantification, les coefficients du développement ici et psi deviennent des opérateurs. Si je voulais être tout à fait rigoureux, je rajouterais ici des chapeaux OA pour montrer que ce sont des opérateurs K ici. Et quant à l'opérateur psi croix de R, il est de la même chose adjoint, donc AK croix de R et psi et puissance IKR se change en et puissance moins IKR. Alors ici, comme c'est R moins R' qui apparaît dans V, il est commode de changer de variable et passer de R, R' aux variables 1/2 de R plus R', qui est le centre de masse, et S égale R moins R', la variable relative. Comme le jacobien de cette transformation est égal à 1, somme de D3R, D3R', c'est somme de D3R, D3S. Et petit r égale r plus s sur 2, et petit r prime égale r moins s sur 2. Donc, je repars de cette expression. Je remplace chaque fois psi de r et psi de r prime par ces expressions-là. Donc, je vais avoir une somme sur 4 indices, parce que ici, j'aurai une première somme, une deuxième somme, une troisième somme, une quatrième somme. Donc, je vais avoir 1/2 ici. 1 sur l puissance 3/2, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va me donner 1 sur l 6. 1/2, 1 sur l 6. Somme de D3R, D3S, somme sur K, KB, KC, KD, Et puis AKC, AKB, pardon, AKA, AKB, AKC, croix, AKD, croix. Et dans les exponentielles ici, et puissance IKR, et puissance IKR prime, et puissance moins IKR prime, et puissance moins IKR, je remplace RR prime par ces valeurs. Alors, le terme en R, il est le même partout, donc je vais avoir et puissance IK plus KB, moins KC moins KD, R, quand R. Et le terme en S, je vais avoir K moins KB plus KC moins KD, S sur 2, parce que j'ai S sur 2 ici. Et puis finalement, V de S. Alors, ça paraît compliqué, mais ça va simplifier beaucoup, parce que, en effet, l'intégrale R n'apparaît qu'ici, et l'intégrale sur R de cette somme-là, si K plus KB moins KC moins KD n'est pas égal à 0, c'est un des vecteurs du réseau de Miles de pi sur L, on va avoir 0. Si c'est égal à 0, on va avoir l'intégrale sur L3 de 1, c'est L3. Donc l'intégrale sur R de ceci va me donner un L3 delta K plus KB moins KC moins KD. Ça, ça a une signification physique très simple. L'interaction ne change pas quand je déplace toutes les particules ensemble dans une translation globale. Donc il y a conservation de l'impulsion globale. Et dans ce processus d'interaction où deux particules K et KB se transforment en KC et KD, il y a conservation de l'impulsion globale, donc doit avoir delta K plus KB moins KC moins KD. Donc, au lieu d'avoir une somme sur 4 indices, j'ai une somme sur 3 indices, K, KB, et puis KT ou KD, il est plus simple de poser KD égale K1, KC égale K2, KB égale K2 plus K, et K égale K1 moins K. À ce moment-là, évidemment, la somme de ceci est égale à la somme de ceci. Quand je reporte ça là-dedans, je m'aperçois que le coefficient du terme en S et puissance IS, c'est tout simplement et puissance moins I K scalaire S. Et finalement, l'intégrale sur S va me faire apparaître somme de D3S, V de S et puissance moins I K S, qui est rien d'autre que la transformée de Fourier spatiale du potentiel V de K. Donc finalement, beaucoup de choses se simplifient là-dedans et on obtient pour la Hamiltonienne d'interaction, H interaction égale 1 sur 2L3, sigma sur K1 sur K2 et sur K, de AK1 moins K, AK2 plus K, AK2, AK1, croix les deux, V de K. Autrement dit, une particule arrive avec K1 moins K, une particule arrive avec K2 plus K, elles deviennent K1 et K2 avec une amplitude V indice tilde de K, transformée de Fourier spatiale sur K, sommée sur K1, K2 et K. Cette expression se simplifie encore plus quand je prends le potentiel G delta de R, parce que si la transformée de Fourier spatiale de delta de R, c'est une constante que j'appelle G, c'est le coefficient de G qu'il y a ici, et à ce moment-là, G c'est 4 pi L bar de A sur M, et l'interaction c'est tout simplement G sur 2L3, une constante, que tu multiplies sigma K1 K2 K de 4 opérateurs, 2 de création, 2 d'annihilation, avec conservation de l'impulsion globale. En général, tous les articles démarrent avec ça, et puis sans commentaire, on continue les calculs avec un opérateur de ce type. Mais vous voyez maintenant d'où il sort. Alors, si on veut calculer les choses sérieusement, avec, on sait bien que ça ne marche pas aux ordres supérieurs, il faut prendre V pseudo, parce que V pseudo est traitable par l'approximation de Born, et reprenons maintenant V pseudo et recommençons le calcul, un peu plus rapidement si vous voulez bien, au lieu de mettre ici V de R moins R prime, qui était tout à l'heure, rappelez-vous déjà que je mettais un sandwich ici parce que c'était un nombre, je pouvais le mettre un peu partout. Attention ici, comme il y a des opérateurs D sur D de R moins R', il faut bien le mettre à cet endroit. Et l'opérateur H interaction, c'est G sur 2, somme de D3R, D3R', psi croix de R, psi croix de R', delta de R moins R', D sur DS, S, psi chapeau de R', psi chapeau de R. Alors, si je prends, voilà, ça c'est une première forme de la Hamiltonienne d'interaction. Si je prends maintenant le même changement de variable que plus haut, quand je passe dans la base des ondes planes, quand je prends, après l'intégration sur R, alors ici je donne un peu plus d'intermédiaires que dans les notes, quand je prends l'intégration sur R, je vais avoir une fonction delta qui apparaît ici, et j'aurai donc une somme sur 4 indices, K, KB, KC, KD, delta de KD plus KC, moins KB, moins K, AKD croix, AKC croix, et puissance moins IKD moins KS, S sur 2, D sur DS, S, AKB AK et puissance IK moins KB S sur 2. Donc ça, j'ai simplement réécrit ce que j'avais fait tout à l'heure. Je prends comme la même notation que tout à l'heure, KD égale K1, KC égale K2, KB égale K2 plus K, K égale K1 moins K. Je remets ça là-dedans, j'utilise la fonction delta, et j'obtiens cette formule. Alors là, je m'excuse, il y a une erreur dans les notes, donc je remets la formule exacte ici. En général, quand je prépare le cours pour le présenter oralement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les notes. C'est la formule 717. Alors, d'abord, j'ai oublié ce terme-là. Dans K moins KB, comme K c'est K1, KB c'est K2, K2 moins K, K plus K, il y a un K moins K2 S sur 2. Donc j'ai oublié ce terme-là. Donc je vous demande de le rajouter, celui-là. Et puis, plus important, c'est plus intéressant de mettre, il faut mettre la somme sur K après D sur DS de S. J'avais mis sigma sur K ici. Trop rapidement, il faut mettre sigma de K ici. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a une somme sur K, qu'on va faire les calculs, qu'on va trouver une somme sur K, il faut faire la somme sur K avant de faire agir D sur DS. Il ne faut pas mettre la somme sur K avant. Donc voilà, deuxième erreur. Alors, ce terme qui ne dépend pas de K peut être mis n'importe où et se simplifier avec celui-là. Et l'intégration sur delta S revient à prendre cet objet-là et de le prendre en S égale 0. Et j'obtiens donc finalement l'expression de H interaction pour V pseudo, qui est G sur 2L3, sigma sur K1, sigma sur K2, AK1 croix, AK2 croix, que multiplie D sur DS de S, sigma K2, AK2 plus K, AK1 moins K, puissance moins JKS, évalué en S égale 0. Ça, c'est la formule 718, qui est exacte à part que je crois que j'ai mis AK1 plus K au lieu de mettre AK moins K, là, c'est un lapsus. Voilà, donc j'ai... Voilà l'Hamiltonien qui, en principe, voudrait faire tous les calculs avec lui. Je rappelle quelques résultats du cours 4. C'est, premièrement, il faut faire la somme sur K avant de faire agir D sur DS de S. Si la somme sur K n'est pas pathologique, si elle converge uniformément, il n'y a pas de problème. Et on peut D sur DS de S qui multiplie ceci, c'est S qui multiplie... D de DS sur ceci qui ne pose pas de problème, évaluant S égale 0, ça disparaît, et D sur DS de S est 1, on retrouve le même résultat que si on avait utilisé B delta, et qui est quand même beaucoup plus simple à manier. Donc si la somme sur K est uniformément convergente, il n'y a aucun problème, on obtient le même résultat avec V delta ou avec V pseudo. Attention, si la somme n'est pas uniformément convergente, et si les résultats sont différents, à ce moment-là, c'est V pseudo qui est correct. V delta est un Hamiltonien qui n'est pas correct. Il faut faire attention. Bien. Ceci étant, donc après donc ce rappel un peu long, mais donc je m'excuse, il est quand même important de bien avoir à sa disposition l'opérateur qu'on va utiliser par la suite. Je passe maintenant pour illustrer cette forme opératorielle et commode de H. Je vais maintenant d'abord rappeler un peu ce que donnerait un calcul perturbatif habituel. Dans la Hamiltonienne d'interaction, la première chose qu'on a envie de faire, c'est évidemment d'appliquer la théorie des perturbations et de calculer le déplacement de l'état fondamental, le déplacement du premier état excité au premier ordre, au deuxième ordre, de calculer les fonctions d'onde au premier ordre, et ainsi de suite. Je vais vous montrer donc un certain nombre de résultats très simples. Ça donnera d'ailleurs un petit peu d'entraînement pour manipuler ces opérateurs. Et nous allons voir que, en fait, le calcul des perturbations n'est pas du tout valable. On ne peut pas l'utiliser parce qu'on obtient des résultats qui ne sont pas cohérents. Donc je vais commencer par un calcul du premier ordre. Et d'abord, je vais calculer le déplacement de l'état fondamental, delta est 0, à l'ordre 1. Puis je calculerai le déplacement du premier état excité, delta est 1, à l'ordre 1. Alors, allons-y. Le calcul du déplacement de l'état fondamental au premier ordre. Alors d'abord, comment noter l'état fondamental? L'état fondamental non perturbé, c'est-à-dire l'état fondamental de cet opérateur, c'est toutes les particules dans l'état le plus bas de P2 carré sur 2m, c'est l'état K égale 0. Donc l'état fondamental, je peux l'appeler 0. C'est N0, l'état K égale 0 qui contient N particules, et tous les autres nombres d'occupations égaux à 0. Alors, si vous me permettez, pour pas j'écrirai que les nombres d'occupations non nuls. Donc, c'est N0 égale N. Et d'après la théorie des perturbations, delta N0 de 1, c'est N0 égale N, H interaction, N0 égale N. Alors, je vais peut-être ressortir l'expression de la méthode d'interaction et le laisser là-bas. Et ça, je vais en avoir constamment besoin. Alors, il est ici, je prends le premier qui est en haut. Ici, celui-là. Bon, c'est G sur 2L3. Alors, voyons. J'ai deux opérateurs de création à l'extrême droite. AK1 moins K, AK2 plus K. Comme ici, il y a seulement l'état fondamental qui est occupé. Tous les autres états sont dans le vide. Étant donné que l'action d'un opérateur de destruction sur le vide donne 0, le seul opérateur qui ne va pas donner 0 dans cette quadruple sort, c'est K1 moins K égale 0, et K2 plus K égale 0. Il n'y a pas d'autre solution. Donc je suis obligé de prendre ici. Je suis obligé de prendre ici A0 et A0. Bon, donc je suis passé de l'état N0 égale N à l'état N0 égale N-2. Et comme je prends le produit scalaire après avec N0 à N, si je veux avoir quelque chose de non nul, il faut absolument que je recrée les deux particules que j'ai détruites. Donc le seul terme de cette quadruple infinité de terme qu'il y a là-bas, c'est tout simplement A0 croix, A0 croix. Et puis, il ne faut pas que j'oublie, il y a le V de K, V tilde de K. Non, c'est la somme rouge que je prends en haut, donc c'est V de K. Et le K, c'est la différence qu'il y a entre K1 moins K ici, K1 ici, c'est donc V de 0. Voilà donc delta E0 1 calculé. Maintenant, là, je vais avoir une racine de N. Le deuxième, ça va me donner une racine de N moins 1. Et puis, si je vais avoir une racine de N moins 1, ici, une racine de N. Donc, tout ceci, c'est NN-1. Et j'obtiens donc que delta E01, c'est G sur 2L3, NN-1, V0. C'est à peu près égal, si on perd N-1 par N, c'est à peu près égal à GN2 sur 2L3, V0. Et N sur L3, N particule divisé par le volume N3, c'est la densité. Alors, juste ici, j'avais appelé la densité petite n. Comme j'utilise aujourd'hui les nombres d'occupation N0, N1, N2, je vais changer de notation, si vous permettez, je vais l'appeler rho. La densité de particules, N sur V, je vais l'appeler rho. Donc, N sur L3, ça va me donner un V, ça va donc donner N fois G sur 2, rho P0. Voilà le déplacement de l'état fondamental au premier ordre. Alors maintenant, je vais prendre le premier état excité. Si vous me permettez, je vais prendre les trois côtés de la boîte différents, un plus petit, un plus long que les deux autres, de manière à avoir le premier état excité non dégénéré. Donc j'ai un certain état excité qui est tout seul, et je vais appliquer la théorie des perturbations froidement, en ne me posant pas la question de savoir si les éléments de matrice de V sont grands ou petits devant les écarts entre niveaux non perturbés. Parce qu'on applique la théorie des perturbations, il faut se préoccuper de cette chose-là. Bon, faisons, négligeons ça pour le moment, et delta E1 de 1, qu'est-ce que ça va être le premier état excité? Je vais l'appeler 1. Ça va être N-1 particule dans l'état fondamental, et puis une particule dans le premier état excité que j'appelle 1, N1 égale 1. Tous les autres étant égaux à 0. Donc ce qu'il faut que je calcule, c'est 1, H interaction, 1. Bon, là, je le fais sur transparent, c'est un peu plus... bien plus compliqué, mais... Donc, delta E1 de 1 égale H interaction pris en sandwich entre N0 égale N-1, N1 égale 1, et puis le même opérateur, le même état de l'autre côté. Alors, combien il y a de termes qui interviennent maintenant? Ici, je peux me permettre de détruire deux particules dans l'état 0, puisque j'en ai beaucoup. Donc, je peux prendre un terme avec A0, A0, et puis à ce moment-là, il faut que je les recrée A0 croix, A0 croix, avec un V de 0. Mais comme j'ai maintenant une particule dans l'état 1, je peux faire autre chose, je peux détruire une particule dans l'état 1 et détruire une particule dans l'état 0. Donc je peux prendre A1 à 0. À ce moment-là, il faudra que je les recrée, puisque je dois retomber sur mes pieds, j'ai donc un A1 croix, A1 0 croix. Donc je prends A1 à 0 ici, A0 croix, A1 croix ici, et comme j'ai deux ordres possibles ici et deux ordres possibles ici, j'ai quatre termes. Donc j'ai en tout cinq termes, A0, A0, A0 croix, A0 croix, et puis 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. On a épuisé toutes les possibilités. Quant au V qu'il y a là, il faut prendre la différence entre le K qu'il y a ici et le K qu'il y a ici. 0, 0, c'est donc V0. 1, 1, c'est V0. 0, 1, c'est VK moins K0. 1, 0, c'est VK0 moins K1. Et je rappelle, peut-être ça je vais le mettre par sous, comme V à la symétrie sphérique, on peut démontrer facilement que V de K égale V de moins K. Voilà donc tous les termes qu'il y a là. Alors, le coefficient ici, c'est V0, le coefficient ici, c'est VK moins K0. Mais si je prends la limite thermodynamique, où je vais tendre N vers l'infini, V vers l'infini, en gardant ρ constant N sur V, à ce moment-là, la différence entre les différents K tend vers 0, puisqu'ils sont donnés par 2π sur L, Nx, Ny, Nz, et donc V de K1 moins K0 tend vers V0, et V0, c'est ce que j'appelle G, c'est l'intégrale spatiale de V de R. Donc, tous les coefficients sont les mêmes ici, je peux les mettre en facteur, G sur 2L3, et ici, je vais avoir racine de N moins 1, racine de N, racine de N moins 1, non, pardon, racine de N moins 1, parce que je parle maintenant de N moins 1. Racine de n moins 1, racine de n moins 2, racine de n moins 1, racine de n moins 2, ça va donner n moins 1 moins 2. Tous ces termes sont égaux. Et puis j'ai un racine de n moins 1 ici, 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 1, 1, 1, 1. Donc plus 4 fois racine de n moins 1 au carré, c'est-à-dire 4 fois n moins 1. Voilà le déplacement de l'état du premier état excité. Je regroupe les termes et je m'aperçois que je peux écrire ça sous la forme. J'ajoute 2 fois n-1 pour faire disparaître ce 2, j'obtiens g sur 2L3 nn-1, plus il me reste 2n-1 sur 2L3 plus n-1 sur L3g. Et g sur 2L3 nn-1, V0, c'est ici, c'est delta E0. Donc, je trouve que le déplacement du premier état excité est égal au déplacement du fondamental, plus gn-1 sur L3, qui est pratiquement égal à gn sur L3, n sur L3, 0, plus 0. Donc on trouve un résultat qui est très simple. On trouve que delta E1 moins delta E0 de 1 égale 0. Et ça, ça ne s'annule pas à la limite thermodynamique. À la limite thermodynamique, tous les niveaux se resserrent de plus en plus. Et je trouve que, quand ils sont non perturbés, et je trouve qu'il apparaît un écart fini, ce qu'en anglais on appelle un gap, entre l'état fondamental et le premier état excité, et ça montre que mon calcul n'est pas très cohérent, parce que je n'ai pas le droit d'appliquer la théorie des perturbations quand les déplacements d'énergie calculés au premier ordre sont plus grands que les écarts entre niveaux non perturbés. D'accord ? J'ai fait ce calcul uniquement pour jouer un petit peu avec les AA3, pour nous familiariser avec, et on voit ici que cette théorie des perturbations appliquée brutalement, sans discernement, conduit à un résultat un peu absurde. Il faudrait que j'ai pas le droit de ne garder que les éléments diagonaux de V dans les éléments non perturbés. Il faut que je prenne aussi tous les éléments non diagonaux qui sont aussi importants. Il faut que je diagonalise l'ensemble si je veux avoir un résultat cohérent. Bien, nous verrons que plus tard que la théorie de Bogodubov prédit un spectre continu qui part d'état excité qui part de 0 où il n'y a pas de gap. Alors, tant qu'on est au premier rang, on a calculé le déplacement du fondamental, le déplacement du premier état excité. Calculons maintenant la correction au premier ordre à l'état fondamental. Psi 0 de 1. Donc, je vais aller là-bas. C'est bon, quand on applique la théorie des perturbations pour les fonctions d'onde, il faut contaminer l'état dont on parle, l'état fondamental, par tous les états auxquels il est couplé par la Hamiltonienne d'interaction. Donc, quels sont les états auxquels 0 est couplé par H interaction ? Alors, rappelez-vous, H interaction est toujours ici là-bas. Il y a quatre opérateurs, deux de destruction, deux de création. Les deux premiers opérateurs de destruction, agissant sur l'état fondamental, ne peuvent que détruire une particule dans l'état fondamental et une deuxième particule dans l'état fondamental. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, tous les autres états sont vides. Donc les deux premiers états, les deux premiers opérateurs font passer de N0 égale N à N0 égale N moins 2. Par contre, après, je crée ce que je veux. Mais si j'ai détruit deux particules d'impulsion nulle, les deux particules que je crée, leur impulsion totale doit être nulle. Donc on voit tout de suite apparaître les paires K moins K. Les seuls états auxquels 0 est couplé par H interaction, je vais les appeler K moins K. C'est des états, et puis N0 égale N-2, où il y a N-2 particules dans l'état fondamental, et où il y a une paire K-K. Une particule dans un état K, et une particule dans l'état moins K, d'impulsion opposée. Sommée sur toutes les valeurs possibles de K. Quand on contamine, par la théorie des perturbations, un état, il faut sommer sur tous les états possibles, autres que l'état initial, auquel c'est couplé. Il faut donc le somme sur K-K. Alors attention ici, une petite erreur qu'on fait souvent, quand on somme sur K-K, il faut sommer sur un demi-espace, parce que si je somme sur K-K et sur moins KK, c'est la même chose. L'état K, moins K, c'est la même chose que l'état moins K, K. D'accord ? Donc, quand je fais la somme sur K, c'est en fait une somme sur un demi-espace que je vais écrire comme ceci. Sinon, je compte deux fois le même état et à ce moment-là, je fais une bêtise. Bon, alors, je représente maintenant le calcul un peu plus rapidement sur transparent. Les deux termes de H interaction qui interviennent, c'est A0 à 0, AK à moins K, et A0 à 0, A moins K, AK. A moins K croît, AK croît. Il est facile de voir que les deux éléments de matrice de H interaction entre l'état N0N et l'état K-K de ces deux opérateurs sont les mêmes parce que ces deux opérateurs commutent, hein, c'est des bosons. Donc le 2 de 2 sur L3 disparaît, j'obtiens V K sur L3, et A0 me donne un racine de N-1, le deuxième A0 me donne un racine de N-1, c'est racine de N-1. Voilà l'élément de matrice. Je m'aperçois que cet élément de matrice n'a pas de singularité quand R est égal temps vers R prime, et je peux le remplacer donc aussi bien prendre V pseudo que V delta. Je remplace V de K par G, donc G sur L3 racine de N N-1. Et finalement, la théorie des perturbations me dit que Psi 0 de 1, c'est somme sur tous les états auxquels c'est couplé, c'est-à-dire tous les états K moins K, somme 1 demi de l'élément de matrice ici, de contamination, divisé par la différence d'énergie entre l'état initial et l'état auquel c'est couplé. L'énergie de E0, c'est 0, non perturbée. L'énergie de K moins K, c'est deux fois l'énergie cinétique de K, parce que l'énergie cinétique de K et l'énergie cinétique de moins K sont les mêmes. C'est donc moins alpha K2 sur M. Quand je remets ça là-dedans, j'obtiens finalement que Psi 0 de 1, c'est somme 1/2 sur K différent de 0, V2K sur L3, M sur H bar 2, racine de NN moins 1, 1 sur K2, K moins K. Et si je prends V delta ou V pseudo, je remplace simplement V2K par G. J'ai donc calculé la fonction d'onde au premier ordre. Maintenant, j'ai fini ce calcul de perturbation en calculant au deuxième ordre le déplacement de l'état fondamental. Alors, je fais ce calcul, comme je vous l'ai dit au début, exprès pour faire une fois un calcul sérieux avec V pseudo, pour vous montrer qu'il faut faire attention, que suivant qu'on utilise V pseudo ou V delta, on n'obtienne pas la même chose. Et une fois que j'aurai fait ce calcul sérieux, après je ne recommencerai pas toutes les fois. Parce que, comme vous allez voir, c'est quand même un peu lourd à manier. Alors, calcul du déplacement de l'état fondamental au deuxième ordre. D'abord, je prends potentiel V de R quelconque. Formule des perturbations habituelles. Je prends l'état initial, je le coupe à tous les états possibles, je prends l'élément de matrice au carré et je divise par le dénominateur d'énergie E0 moins E K moins K. Et je somme sur tous les états possibles, c'est sigma 1/2 de K. La quantité sur laquelle je somme est paire en K, donc sommé sur 1/2 espace, ça revient à sommer sur tous les espaces avec un facteur 1/2. Donc j'obtiens ça, c'est 1/2 sur sigma K différent de 0. J'utilise l'élément de matrice que j'ai trouvé tout à l'heure pour cet opérateur. J'obtiens moins 1/2 de nn moins 1 m sur h bar 2 l6, sigma sur k différent de 0, v2k modulo carré sur k2. Alors la somme sur k, quand je vais passer à une intégrale, ça va être intégrale de k2 dk d oméga. Le k2 qui est au numérateur va simplifier le k2 qui est au dénominateur ici, donc il n'y a pas de singularité à l'origine. Donc je peux me débarrasser de la restriction k différent de 0. Et je m'aperçois que j'ai intégré somme de k2 dk d oméga v2k carré sur k2, c'est-à-dire somme de dk d oméga vk carré. Si vk carré tend vers 0 suffisamment vite, l'intégrale est convergente et j'obtiens une correction finie. Par contre, vous voyez que si j'applique cette formule avec le potentiel v delta, où v2k est égal à g, j'ai intégré la même chose ici, nn-1 mg2 qui est mg2 rho 2 sur 2h bar 2, là, somme sur k différent de 0 de 1 sur k2, c'est-à-dire somme de k2 dk d oméga sur k2, c'est-à-dire somme de dk d oméga, et ça c'est une intégrale divergente. Donc, on trouve un os difficile, là, hein. Si on prend V delta, la correction au deuxième ordre est infinie. Ça vous rappelle les calculs que j'avais fait dans la boîte sphérique, et on trouvait un déplacement infini, comprenez V delta. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend maintenant V pseudo? Alors, comme je vous l'avais montré la dernière fois, il ne faut pas prendre le déplacement de perturbation au deuxième ordre comme une somme de termes au carré divisé par des dénominateurs d'énergie. Il faut prendre comme la Hamiltonienne d'interaction pris entre l'état non perturbé et l'état perturbé au premier ordre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai calculé tout à l'heure la perturbation au premier ordre. Et à ce moment-là, comme l'état au premier ordre est une superposition linéaire d'état k moins k, ce qu'il va falloir prendre dans l'opérateur d'interaction, ici, en fait c'est l'opérateur adjoint ici, il faut prendre des termes AK croix, AK moins K croix ou AK moins K. Il faut prendre ces termes-là. Et quand on met ces termes-là là-dedans, pour détruire les K moins K qui en sont ici, et si on fait attention de faire la somme avant de faire agir D sur DF, on obtient pour V pseudo, delta E02 égale moins NN moins 1 sur H bar 2 L6, MG2, D sur DS de S, sigma de K différent de 0, 1/2, et puissance IK sur K2, donc je remplace ça par 1/2 sigma K différent de 0. Et je trouve maintenant D sur DS de S, somme sur K2, et puissance IK sur K2. Mais maintenant, il faut que je fasse la somme avant de faire agir D sur DS. Et cette somme, qu'est-ce que c'est? Si je remplace la sommation sur K que multiplie le volume d'une maille élémentaire qui est l'intégrale sur K, si je remplace ça là-dedans, je vois apparaître somme de D3K et puissance IKS sur K2, et ça, c'est la loi de Coulomb, c'est 1 sur 4 πs, qui diverge en S égale 0. Et donc, je vois apparaître ici 1 sur S. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne D sur DS de S qui multiplie 1 sur S, évalué en S égale 0, et D sur DS de S sur 1 sur S, ça fait S qui multiplie 1 sur S, c'est 1, et D sur DS de 1, c'est 0, je vois apparaître un déplacement qui est nul. D'accord? Donc quand je fais le calcul correctement avec V pseudo, le déplacement du deuxième ordre est nul. Donc, je m'excuse, j'ai fait tout ce calcul un peu plus pénible, simplement pour vous montrer que dans le calcul qu'on fera plus tard, à partir de vos polybords, qu'on utilisera toujours V delta, qu'on voit apparaître la somme Mg2 rho 2 sur 2h bar 2, somme sur K de 1 sur K2, on dira, attention, elle est infinie, au lieu de s'en débarrasser, comme la plupart des gens font dans la littérature, on dira, si on avait fait le calcul avec V pseudo, et Ivan Kassian, par exemple, a fait le calcul complètement de le déplacement d'état fondamental dans Bogoliubov avec V pseudo, on s'aperçoit que le déplacement de deuxième ordre est nul. Là, je l'ai fait le calcul ici concrètement pour vous montrer qu'avec V pseudo, il n'y a pas de déplacement en deuxième ordre. Bon, j'en ai fini avec ça, et je passe alors maintenant réellement à Bogoliubov. Je voudrais surtout insister, comme j'ai rédigé en détail les calculs dans les notes, je vais plutôt rédiger ici dans la partie, je vais insister plutôt dans la partie présentation orale sur les idées physiques. Donc, quelle est l'idée générale? Bon, si H interaction est nulle, je sais que l'état fondamental, c'est N0 égale à N, NK égale 0, si K différent 0. Si le milieu est suffisamment dilué pour que l'effet des interactions soit faible, bien sûr, les collisions individuelles peuvent être fortes, mais la plupart du temps, les atomes sont libres. Si le milieu donc est suffisamment dilué pour que les interactions soient faibles, et je ne sais pas encore comment le dire exactement, ceci, on le verra après, on s'attend à ce que dans l'état fondamental et dans les premiers états d'excités du système, N0 reste de l'ordre de N, et que sigma k différent de 0 de NK soit très très petit devant N. D'où l'idée suivante, au lieu de diagonaliser H dans tout l'espace, on va se restreindre à un sous-espace caractérisé par sigma, un sous-espace vecteur NK, caractérisé par sigma K de NK, sigma K différent de 0 sur NK, sur N, très petit devant 1. On va garder que les états dans lesquels l'état fondamental 0 N0 a une valeur macroscopique. Et on va faire le calcul en puissance de ce paramètre, en ne gardant que les termes d'ordre le plus bas dans ce paramètre. Bien, alors, comment on va concrètement mettre cette idée en place? Je donne ici l'action de A0 et A0 croix, les deux opérateurs qui vont être importants, maintenant ça va être A0 et A0 croix, parce que ce sont eux qui agissent sur l'état qui est le plus peuplé. L'opérateur A0 agissant sur un état NK de ce type, qu'est-ce que ça fait? Quelle est la population de l'état N0? C'est N moins sigma K différent de 0 de NK. C'est ça N0. Donc A0 agissant sur NK va laisser tous les nombres d'occupations inchangés, sauf le nombre d'occupations N0 qui va diminuer d'une unité, donc avec un coefficient qui est racine de N0. Comme N0 c'est N moins sigma K différent de 0 de NK, ça va être racine de N moins ceci, que multiplie un état où tous les nombres d'occupations sont inchangés, sauf le nombre d'occupations 0 qui diminue d'une unité. Donc je peux écrire ça sous la forme NK moins delta K0. Et comme ceci est tout petit devant ceci, je peux remplacer ça par racine de N. De même pour A0 croix, à part qu'il faut mettre ici un plus 1 et ici un plus au lieu d'un moins. Bon, alors, ceci étant, on s'aperçoit donc que les éléments de matrice de A0 et A0 croix sont en racine de N, alors que les autres sont de l'ordre de racine de 1. Donc, on va garder que les termes contenant beaucoup de A0. Bien sûr, ceux qui contiennent 4 A0 ou A0 croix, il faut les garder. Est-ce qu'il y en a qui en contiennent 3? Réponse non. Il n'y en a pas qui contiennent 3, parce que s'il y a 3 indices égaux à 0, la conservation de l'impulsion implique que le quatrième est aussi égal à 0. Donc il n'y a pas d'opérateur contenant 3 à 0 ou à 0 croix. Par contre, il y en a qui contiennent 2 à 0 ou 2 à 0 croix. On va les garder. Par contre, il y a des termes qui contiennent 1 seul à 0, 1 seul à 0 croix, ou 0 à 0 et 0 à 0 croix, selon les néglises. Donc on ne va garder que les termes contenant 4 à 0 ou à 0 croix, et 2 à 0 ou à 0 croix. Et deuxièmement, comme les éléments de matrice de racine de n sont tellement plus grands que racine de n plus 1, racine de n moins 1, on va remplacer les opérateurs a0, a0, croix par des nombres purs qui sont racine de n. Donc les deux approximations qu'on va faire, voyez, on va se limiter à un sous-espace qui nous permet de garder que ce type de terme-là, et qui va permettre de remplacer les opérateurs a0, a0, croix par des nombres purs qui sont racine de n. Alors attention, il y a un petit problème avec le terme qui contient 4 a0, a0, croix. Il n'y en a qu'un. C'est A0, A0, A0 croix, A0 croix, V0 sur 2L3. Son ordre de grandeur, c'est N2, puisque ça c'est racine de N moins 1 au carré, ça fait N moins 1, c'est N2. Ce terme est en N2, c'est un gros morceau. Mais attention, en réalité c'est pas N2, c'est N02, parce que A0, c'est racine de N0 que ça me donne. Comme il est gros ce terme, je ne peux pas remplacer froidement N0 par N, il faut que je fasse un peu plus attention. Donc, j'écris A0 croix, A0 croix, A0, A0. Le A0 croix, A0 du milieu, je peux le remplacer par A0, A0 croix moins 1, par les relations de commutation. Et je vois apparaître que ce produit de 4 opérateurs, c'est A0 croix, A0 au carré moins A0 croix, A0. A0 croix, A0, c'est ce que j'appelle l'opérateur N0. C'est N moins la somme des particules qui ne sont pas dans l'état K. Et quand j'élève ça au carré, je vais avoir N2, je retrouve le N2 qu'il y a là, moins le double produit, moins 2N. Il ne faut pas que j'oublie ce terme qui est en N. Puis le terme carré, ça, je peux négliger, lui, il est de l'ordre 1. Donc finalement, quand je reporte ça là-dedans, j'obtiens que cet opérateur-là, c'est N2 moins 2N sigma K différent de 0 de A croix K, A K moins N. Et finalement, le terme à 4 opérateurs A0, A0 croix, c'est V0 sur 2L3, NN moins 1, moins 2N sigma K différent de 0 A croix K, A K. Quand j'introduis rho égale N sur V, c'est de la forme 1 demi de n rho v0 moins 1 demi de n rho v0, ça vous rappelle quelque chose? Vous le voyez ici? D'ailleurs, ici, il n'y a pas de g. Hein. Si je mets v0, je ne mets pas de g, je m'excuse. Si je prends v delta, à ce moment-là, j'en place v0 par g. Donc, je retrouve ici donc, le déplacement de tout à l'heure, du premier ordre, moins rho v0, sigma k différent de 0, de a croix k à k. Je vais encore faire un dernier calcul, puis après tout le reste, je m'enverrai aux notes. Quels sont les termes qui contiennent 2 à 0 ou 2 à 0 croix? Alors maintenant, je les prends tous, hein, je ne prends pas d'éléments de matrice, je suis au niveau où je prends un opérateur. Donc j'ai 4 cases, il faut que je prenne 2 fois l'indice 0 dans ces 4 cases, donc j'ai combien de possibilités? J'ai C4, 2. J'ai 4 fois 3, 12, divisé par 2, ça fait 6. J'ai donc 6 termes. Et je les ai marqués tous ici. Les 2 0 ici, les 2 0 ici, 1 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 0 ici. Et le V qu'il faut mettre ici, il faut prendre la différence entre le K qui est ici à l'extrême droite et le K qui est à l'extrême gauche. Et j'obtiens tous ces termes-là. Et évidemment, les autres K sont déterminés par la conservation de l'impulsion. De sorte que, ou j'ai k moins k, quand j'ai 2, 0 ici, ou quand j'ai 0, 0 ici, j'ai k et k ici. Donc, je n'ai que trois types de termes, des termes en a croix k à k, des termes en a croix moins k, et des termes en ak à moins k. C'est soit le même k, à ce moment-là c'est a croix k à k, soit k moins k, et c'est deux opérateurs de création ou deux opérateurs de destruction. Et les v, je les ai mis ici. Si vous regardez ces deux derniers termes ici, et si vous regardez la contribution du terme à 4 opérateurs A0, A0, croix, que j'ai calculé plus sérieusement, vous apercevez que ce terme-là, quand j'ajoute ces deux-là, ces deux termes-là, sommé sur K, compensent celui-là. Donc les deux derniers termes ici compensent celui-là, et il va me rester ce terme-là, qui est une constante, plus ces quatre termes qui sont tous proportionnels à V2K. Et j'obtiens finalement, en rajoutant l'énergie cinétique, il ne faut pas oublier, j'obtiens H effectif égale une constante, 1 demi de N rho V0, plus le terme d'énergie cinétique, somme sur K, NK, NK, 3K, plus 1 demi de rho, sigma K différent de rho de V2K, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des termes en A croix K, AK, ou A moins K croix A moins K, qui sont les mêmes qu'en somme sur K, hein, et puis des termes contenant deux opérateurs de destruction, de création AK moins K, ou deux opérateurs de destruction AK moins K. Là, je me excuse, il y a également encore une autre erreur dans mes notes. Quand j'ai recopié mes calculs au brouillon, je ne sais pas pourquoi, j'ai rajouté sur la première ligne où je retrouve la page. Oui, la première ligne de la formule 751. Si vous revenez à la formule 751, il y a uniquement 1 demi de N rho V0. J'ai rajouté un terme qui est en fait un terme qui apparaît plus loin. Alors, qu'on est arrivé à ce niveau-là, un peu après des calculs un peu laborieux, on s'aperçoit maintenant, je voudrais maintenant vous faire comprendre que cet hamiltonien est en fait très simple. C'est un hamiltonien qui est une fonction quadratique de A et A croix. Une fonction quadratique de A et A croix, par un changement de variable, on peut le diagonaliser. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut prendre comme changement de variable? Alors, j'ai toujours beaucoup de mal, quand je lis la littérature, de comprendre pourquoi on prend ce changement de variable, et je peux essayer de vous donner maintenant, sur un transparent, une idée physique permettant de le comprendre plus facilement. Je ne vais pas rédiger, donc je vais rédiger uniquement sur transparent. Vous voyez, c'est un hamiltonien qui contient, finalement, je vais noter ici, les termes qu'il contient, c'est des termes en AK3, AK, des termes en AK3, A-3, et des termes en AK, A-4. Alors, pour avoir une idée de pourquoi on peut diagonaliser cet hamiltonien, en fait, et qu'est-ce qu'il faut prendre comme combinaison linéaire, il est commun de dire qu'est-ce qui se passerait si je prenais le point de vue de Heisenberg et si je calculais l'évolution dans le temps de D sur DT de AK. Mais je sais que D sur DT de AK, c'est 1 sur IH bar, le commutateur de AK avec H effectif. Si l'hamiltonien était diagonal, ça c'est l'oscillateur harmonique, je sais que D sur DT de AK, c'est moins I oméga AK. AK évolue avec une fréquence bien définie. Alors, qu'est-ce que vaut ce commutateur? Le seul commutateur, le seul opérateur avec lequel AK ne commute pas, c'est AK, c'est AK croix, AK AK prime croix égale delta AK prime. Donc, ici, le commutateur de AK avec AK croix AK, comme AK commute avec lui-même, le AK croix, AK AK croix c'est 1, il va me donner un terme en AK. Ce terme-là, ça que deux opérateurs de destruction, et AK commute avec tous les opérateurs de destruction, donc il commute. Donc le terme avec lequel ça ne commute pas, c'est celui-là. AK commute avec A moins AK croix, mais il ne commute pas avec AK croix. Et AK AK croix c'est 1, donc ce commutateur c'est A moins AK croix. Donc, quand je prends le commutateur de AK avec H effectif, qui est une somme de tous ces termes, je vais avoir un terme en AK et un terme en A moins AK croix. Donc, je vais avoir D sur DT de AK égale alpha AK plus bêta A moins AK croix. Je m'aperçois que l'évolution de AK est couplée à A moins AK croix. Donc, si je veux maintenant aller plus loin, il faut que je calcule l'évolution de A moins AK croix. Donc, que je calcule D sur DT de A moins AK croix égale commutateur de A moins AK croix avec H effectif. Avec quoi A moins AK croix ne commute-t-il pas? Il ne commute pas avec A moins AK croix A moins K. Et le commutateur, c'est moins A moins AK croix. Et A moins AK croix commute avec ce produit de deux opérateurs de création, mais il ne commute pas avec ce produit de deux opérateurs d'annihilation. Et le commutateur de A moins K croix avec AK moins K, ce commutateur-là, c'est 1, et je vais trouver moins AK. Et donc, je trouve que D sur DT de A moins K croix, c'est un certain coefficient gamma A moins K croix, plus un certain coefficient delta de AK. Et là, je retombe sur mes pieds. Je m'aperçois que si je prends les deux opérateurs AK et A moins AK croix, ils obéissent à deux équations linéaires couplées. Et je peux toujours introduire à ce moment-là une combinaison linéaire de AK et A moins AK croix qui évolue avec une seule fréquence bien définie qui est découplée des autres. Donc ce petit calcul montre très simplement que ce qu'il faut prendre comme transformation linéaire, c'est de superposer AK et A-4A, et on trouve alors la fameuse transformation de Bogoliubov, qui consiste à remplacer les opérateurs AK et A-4A par deux combinaisons linéaires, BK égale UK AK plus VK A-4A, et maintenant on comprend pourquoi on prend AK et A-4A, où les coefficients UK et VK, pour ne pas compliquer les calculs, on admet le résultat qu'on va trouver tout de suite, c'est des coefficients qui sont réels et qui ne dépendent que des modules de K. Si je prends l'adjoint de cette expression, et si je prends K, je remplace par moins K, j'obtiens cette formule qui me donne B moins K croix en fonction de A moins K croix et de AK. Alors, ces deux opérateurs que j'ai introduits, dont je voudrais bien qu'ils représentent les opérateurs création et destruction des excitations élémentaires, je veux bien sûr qu'ils satisfassent les relations de commutation caractéristiques de l'oscillateur harmonique. Donc je veux que BK, BK croix égale 1, si je calcule ce commutateur, ça, je trouve que c'est égal à ces deux termes-là, c'est UK moins BK carré, et si je veux que BK moins BK croix est égal à 1, ça m'entraîne que UK croix moins VK croix est égal à 1. Donc je peux écrire UK égale cosinus hyperbolique θk et VK égale sinus hyperbolique θk. À ce stade, je ne sais pas encore ce que vaut θk. D'accord ? J'introduis donc cette combinaison linéaire et je veux maintenant diagonaliser la Hamiltonienne. Alors pour cela, ces deux relations, on peut les inverser et exprimer maintenant AK et AK croix en fonction de BK et BK croix. Je vais m'arrêter là parce que si je reporte l'expression de AK et AK croix dans l'Hamiltonien qui est ici, je peux remplacer maintenant partout AK, AK croix par BK, BK croix, et je vais obtenir un nouvel Hamiltonien qui sera complètement réexprimé en fonction des BK et BK croix, et je ne vais pas faire les calculs aujourd'hui, je donne simplement le résultat. Ce qu'on trouve, il est surtransparent, donc pas besoin d'écrire au tableau, ce qu'on trouve, alors, les calculs n'ont aucune malice, on remplace chaque A par des superpositions de B de B croix, et on obtient un Hamiltonien qui a trois lignes ici. La première ligne est une constante, elle ne dépend que de nombres. La deuxième ligne, c'est une somme sur K de BK croix BK, ça c'est très agréable, c'est une somme d'Hamiltonien d'oscillateur harmonique. Et la troisième ligne, c'est une somme d'opérateurs BK croix, BK moins K croix et B moins K BK. Jusqu'à présent, θk, je ne l'ai pas encore choisi. Je n'ai pas encore choisi UK, VK et UK, VK. Mais si je choisis maintenant θk de manière à annuler le coefficient de la troisième ligne, là, à ce moment-là, j'ai diagonalisé la Hamiltonienne parce que je l'ai écrit sous la forme H effectif égale une constante et 0 plus somme sur K différente de 0, somme sur K, H bar oméga de K, BK croix BK. Et ça, c'est remarquable. Parce que ça montre que j'ai trouvé les modes propres de vibration de mon système. Vous savez, en mécanique quantique, on a des oscillateurs couplés, on introduit ce qu'on appelle les variables normales, par exemple pour étudier les phonons, et on transforme l'Hamiltonien où il y a des quadratique de variables couplées, on le transforme en Hamiltonien de variables normales découplées. Ici, on a donc transformé notre Hamiltonien en un Hamiltonien d'une somme de modes, et l'état fondamental de ce système, le nouvel état fondamental de ce système, c'est le vide des opérateurs BK, c'est-à-dire c'est l'état qui satisfait BK psi 0 égale 0, quel que soit K. C'est le nouveau vide des nouvelles variables normal, BK et BK croix, à ce moment-là, E0 apparaît une signification physique très claire, c'est l'état fondamental, le vrai état fondamental du système, plus exactement le nouvel état fondamental du système, dont nous allons voir qu'il est différent de l'état non perturbé. Et qu'est-ce que c'est que H bar oméga K? Quand toutes les variables normales sont dans le vide, sauf une qui est excitée dans un état 1, je vais avoir une excitation élémentaire d'énergie H bar oméga K. Qu'on peut appeler un phonon, si vous voulez. C'est une propagation, c'est une onde qui va se propager dans le milieu avec une fréquence oméga k qui est reliée au vecteur d'onde k. Donc je calculerai ici, je calculerai ici les premiers états excités du système auront une énergie qui est reliée à K par la relation oméga de K. C'est-à-dire j'obtiendrai la relation de dispersion. Donc, aujourd'hui, je vous ai donc introduit en détail, mais de manière un petit peu ingrate, mais en donnant quand même le maximum de détails, les grandes marques du calcul qui permettent d'arriver à cette expression. Et la semaine prochaine, je vais étudier successivement l'interprétation physique de ce terme. J'étudierai la signification physique des excitations élémentaires du système, et je vous montrerai que suivant la valeur de K, on a soit des propagations d'ondes sonores avec une certaine vitesse de propagation, soit des particules qui sont des particules quasi-libres. Ensuite, j'étudierai la signification physique de E0, quelles sont les corrections à l'état fondamental du système. Et enfin, j'étudierai le nouveau vecteur d'état de l'état fondamental. Je vous montrerai que dans Psi0, contrairement à ce qui se passe pour 0, il y a des corrélations entre les particules. Bon, les corrélations, si on a une particule en un point, la probabilité de trouver une particule en un autre point n'est pas indépendante de la position de la première. Donc, après cet intermède mathématique un peu complexe, la semaine prochaine, je serai plus agréable pour discuter en détail tout le contenu physique de cette équation.